Vous écoutez
RMC.
Jeudi 2 juillet,
l'info sur RMC.
Il est 8h01, Céline Kallmann est là pour les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Top ou encore, Édouard Philippe va-t-il rester à la tête du gouvernement? Une majorité de Français souhaite qu'il conserve son poste, sondage Elab pour BFM TV. Les couches pour enfants, peut mieux faire. Les industriels ont encore 6 mois pour revoir leur copie. Il reste toujours des substances toxiques, mais la répression des fraudes note une réelle amélioration. Des ronds verts au bord des routes françaises, vous les avez peut-être déjà observer une action menée par un collectif considéré proche des milieux complotistes. Explication à suivre dans ce journal. Bienvenue sur RMC. Il reste maître des horloges et a fixé lui-même les règles du jeu des chaises musicales. Emmanuel Macron garde pour l'instant le secret sur les contours d'un remaniement qui s'annonce toutefois imminent. Quelle suite va-t-il donner à la fin de son quinquennat? Édouard Philippe, largement élu à la mairie du Havre, va-t-il conserver son poste de chef du gouvernement? C'est en tout cas ce que souhaitent 57% des Français interrogés. Sondage Elab pour BFM TV. Pierre-Yves Bonneau.
Des Français globalement attachés à leur Premier ministre, à l'image de Stéphane.
Moi, je pense que l'intérêt du pays, ce serait qu'il reste. La France, il perdrait sans doute, parce que je pense que c'est quelqu'un qui fait le job, de toute façon.
Dans les rangs de la majorité, on répète que c'est au président de choisir, mais une chose est sûre, selon la députée En Marche, Anne-Laure Cattelot, si Édouard Philippe veut rester, il devra changer de ligne, notamment sur l'écologie.
Il faudra qu'il s'adapte, en tout cas peut-être, à la ligne désirée par le président, et comme le président a dit lui-même qu'il était prêt à changer, il l'a fait, il l'a dit, on a fait pas mal de choses, peut-être pas encore assez, et cette convention citoyenne, elle nous invite à aller plus loin. Donc voilà. Est-ce que Édouard Philippe aura envie d'aller plus loin? C'est à lui de le décider.
Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, ne se pose lui qu'une seule question.
Est-ce qu'ils ont un remplaçant? Est-ce qu'ils ont quelqu'un de mieux à admettre? Je ne crois pas. Voilà. Donc je trouve qu'Édouard Philippe est quelqu'un de sérieux. Il l'a montré pendant la crise. Je ne partage pas toute sa politique. Je suis dans son opposition. Mais disons les choses sérieusement. Aujourd'hui, il me paraît l'homme le mieux placé. En plus, il a été brillamment réélu au Havre.
Avec ou sans Édouard Philippe, le chef de l'État devrait dévoiler son choix d'ici la fin de la semaine.
Xavier Bertrand, ministre de la Santé sous Nicolas Sarkozy, va être à son tour entendu à l'Assemblée par la commission d'enquête sur le Covid-19. Hier, Roselyne Bachelot a parlé d'un pays infantilisé. Elle n'a d'ailleurs pas mâché ses mots contre les médecins. Anormal, selon elle, qu'il ne dispose pas de masques et de blouses dans les cabinets avant la pandémie. Le professeur Raoult lui refait parler de lui. Avec cette question, a-t-il menti devant les députés la semaine dernière? La PHP l'accuse de faux témoignages concernant un patient chinois de 80 ans, hospitalisé à Paris fin janvier, mais aussi à propos de faux chiffres sur le taux de décès de réanimation. Le professeur Antoine Vieillard-Baron, chef du service de réanimation à l'hôpital Ambroise-Paré à Paris, estime qu'il n'y a pas encore assez de recul pour avoir des données précises comme celles présentées par Didier Raoult.
Aujourd'hui, on ne peut pas donner ces chiffres pour une raison extrêmement simple, c'est qu'ils n'ont pas été publiés. Et donc, on n'est pas capable aujourd'hui de donner officiellement une mortalité. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point qui fait que c'est pas très sérieux d'annoncer ce type de chiffres, c'est que l'ensemble des malades n'est pas encore sorti des services de réanimation. Le plus grand nombre, effectivement, en est sorti, mais certains malades sont toujours hospitalisés.
Et le Parlement doit adopter définitivement aujourd'hui le projet de loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire le 11 juillet. La France a enregistré 18 nouveaux décès ces dernières 24 heures dans les hôpitaux. Aux États-Unis, plus de 50 000 nouveaux cas en une seule journée. À peine déconfinée, la Californie reprend des mesures drastiques, comme un retour en arrière pour près de 40 millions d'habitants qui se voient à nouveau privés des bars, restaurants, cinémas, musées fermés pour au moins 3 semaines. Coup dur pour Yannick, français installé à Los Angeles depuis 2 ans. Juin, il y a quelques instants pour RMC.
C'est assez compliqué. C'est un retour en arrière assez important parce qu'on a enchaîné le confinement avec les émeutes. On commençait à revivre un petit peu et là on est obligé de retourner chez nous. Donc c'est un peu démoralisant. Et tout à l'heure, je suis allé à Santa Monica, sur la promenade de Santa Monica, qui est normalement un endroit qui est extrêmement touristique. Il y a toujours des centaines et des centaines de personnes. On était 10, quoi. Les gens ne veulent même plus y aller, quoi. Mes amis sont. Ils préfèrent rester chez eux. Ils sont revenus dans un schéma de peur aujourd'hui. Donc, on voit vraiment que l'inquiétude, elle est revenue.
C'est ce matin que la direction d'Airbus va détailler le plan de 50 000 suppressions de postes en France, site par site. Celui de Toulouse, notamment au cœur du système, devrait être impacté au siège. La fraude fiscale a permis à l'État de récupérer 12 milliards d'euros en 2019, année record. La somme représente une hausse de 50% par rapport à l'année passée. RMC 8h06, les couches de nos bébés sont-elles plus propres? En janvier 2019, une étude de l'ANSES révélait à la présence de pesticides, de produits cancérogènes. La répression des fraudes a depuis mené une vaste enquête pendant un an et demi. Marie Dupin, vous nous dévoilez ce matin les conclusions de cette enquête. Les résultats sont plutôt rassurants. En tout cas, il y a du mieux.
Oui, la répression des fraudes, la DGCRF a mené des contrôles sur toutes les marques de couches vendues en France. Résultat, de nettes améliorations. Aucune couche n'a de substances toxiques au-dessus des seuils recommandés par les autorités sanitaires, mais la situation n'est pas parfaite pour autant. Les tests ont décelé en petite quantité des substances toxiques comme des dioxines, des furanes, des hydrocarbures aromatiques polycycliques et du formaldéhyde à des taux en dessous des seuils sanitaires, mais tout de même trop élevé aux yeux de la répression des fraudes. Le formaldéhyde notamment pose problème parce qu'il est potentiellement cancérogène. Trois modèles sont dans le viseur des autorités: Pampers Premium Protection, Marmaille Plus et Moana Zaza. Les industriels ont 6 mois pour revoir leur copie.
Merci Marie Dupin. Des ronds verts tagués à la bombe sur des draps au bord des routes, sur le bitume, sur les panneaux de signalisation. Une action intrigante observée dans plusieurs départements de France ces derniers temps, dans le Tarn, en Ille-et-Vilaine ou encore dans les Landes. Qui se cache derrière cette action? Un groupe très présent sur les réseaux sociaux et qui se fait appeler le Conseil National de Transition de France. Un groupe au relent complotiste qui revendique la légitimité du pouvoir en France. Maxime Brandstatter.
Saint-Jour-de-Marenne est une petite commune des Landes. En fin de semaine dernière, la ville découvre des ronds verts tagués à la bombe sur des arbres, des panneaux et même des bâtiments publics. Ses habitants ne comprennent pas.
À votre avis, ça veut dire quoi?
J'en sais rien du tout.
Ces ronds sont en fait le signe du Conseil National de Transition, une organisation proche des milieux complotistes qui revendique le pouvoir en France, comme l'explique Claire, 54 ans, l'une de ses membres.
Le but, c'est effectivement de faire connaître aux citoyens français que ils peuvent rejoindre d'autres citoyens pour pouvoir gérer la France ensemble.
Un groupe qui prospère sur les réseaux sociaux, analyse Rudi Reichstadt, fondateur de l'Observatoire du conspirationnisme.
C'est un groupuscule issu de la partie la plus radicale, la plus extrémiste de ce qu'on appelle la complosphère, c'est-à-dire essentiellement des gens d'extrême droite qui fantasment sur toutes sortes de complots, complots des Illuminati, complots maçonniques, etc.
Ces ronds verts restent des dégradations de bâtiments publics et les auteurs risquent jusqu'à 3 750 € d'amende.
Demain soir, c'est déjà les grandes vacances, mais cette année, 14% de Français n'en prendront pas pour diverses raisons. Certaines villes s'organisent au mieux pour tenter d'occuper les jeunes qui ne partiront pas, ceux qui d'habitude passent une partie de l'été dans le pays d'origine de leur famille. Reportage à Rémy Inc à Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis.
Tous les ans, Miguel, 18 ans, part visiter sa famille en Espagne et au Portugal. Mais cette année, la crise sanitaire a changé ses plans.
Cette année, je ne pars pas du tout. Ce sera mon premier été en France, donc je vais sûrement entraîner ici beaucoup. Je compte sur mes amis pour m'occuper du mieux qu'ils peuvent.
Des jeunes qui commencent un été qui sera moins intense qu'espéré. Et des jeunes qui s'ennuient, ça n'est jamais bon. Philippe Bruscolini a joué en charge de la jeunesse, le sait bien.
La rue, le soir, surtout s'il fait beau, c'est la possibilité en tout cas de faire des bêtises. Et puis en même temps, je pense aussi qu'ils ont droit à des vacances comme tout le monde.
Alors la ville a dû réinventer les activités estivales. Et pour éviter les rassemblements trop importants, des animations de proximité seront proposées dans 4 quartiers différents. Virginie de Carvalho, première adjointe.
Proposer le maximum de choses pour le maximum de personnes. Mais comme on ne peut pas le faire à un endroit unique, on diffuse sur les quartiers de la ville plusieurs endroits avec des plus petits groupes. Présence de la médiathèque avec notre médiabus, mais aussi du concert, de la scène artistique, de la danse.
Cette année, il n'y aura pas de feu d'artifice le 14 juillet à Tremblay en France. Le budget sera utilisé pour d'autres activités.
Bien. Voilà,
reportage de Rémy Inc.
Voilà, reportage de Rémy Inc. Bravo, Céline. Delphine Bateau sera mon invitée tout à l'heure, 8h35, 9h07. C'est très intéressant. Parce que voilà, une députée ancienne ministre de l'écologie qui pourrait être candidate à la présidentielle, peut-être, si c'était elle. Eh bien, la candidate écologiste. 8h10 maintenant. 8h10 avec Alain Ducardonnet. Bonjour, Alain.
Bonjour.
Nous allons revenir sur ce qui se passe entre l'APHP, Assistance publique des hôpitaux de Paris, tous les hôpitaux publics. La PHP d'Île-de-France, c'est cela?
De Paris, absolument.
De Paris, bon, bien. Et le professeur Didier Raoult, le Marseillais. Entre Marseille et Paris, ça y est. Entre Marseille et Paris, que se passe-t-il? Martin Hirsch, le président de la PHP, a écrit au président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Martin Hirsch conteste 2 passages de l'audition de l'infectiologue marseillais par les députés. D'une part, une estimation des taux de décès de malades en réanimation. C'est bien ça, hein?
Tout à fait.
Alors, le défenseur controversé de l'hydroxychloroquine a déclaré devant la commission d'enquête que le taux de mortalité dans les services de réanimation était de 43% à la PHP à Paris et qu'il n'était que de 16% à Marseille. Comment peut-il affirmer ce chiffre, ces chiffres?
Alors, il y a deux niveaux de lecture. Le premier niveau, c'est en effet par rapport à des chiffres sur la mortalité qui sont très difficiles à comparer. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, un chiffre de mortalité, il y a plusieurs paramètres. Il y a en effet le degré de gravité de la maladie, à quel moment vous vous situez, quel type de population vous adressez, est-ce que ce sont des personnes âgées, des personnes jeunes. Donc tout cela n'est pas pris en compte, bien évidemment, dans ces chiffres qui sont un peu donnés à la porte-pièce. Les 43% de la PHP sont vrais. C'est-à-dire que ça a été à un moment donné un chiffre qui a été donné par le réseau des anesthésistes réanimateurs qui a fait une étude sur toute la France. À la PHP, c'était 43%. Sur toute la France, c'était 41%. Donc, à peu près les mêmes chiffres. Alors, les 16% de Didier Raoult sont sûrement vrais, mais on ne les a pas vus publiés. Donc, encore une fois, cette comparaison n'est pas tout à fait faisable et ce n'est pas jouable de dire ça.
C'est encore ça veut dire quoi? Ça veut dire sous-entendu qu'on réanime mieux à Marseille qu'à Paris?
Voilà, c'est ça, le vrai problème, il est là. Le vrai problème, et d'ailleurs Didier Raoult l'avait évoqué, un petit peu devant les députés, mais déjà auparavant, en disant, mais qu'est-ce qu'ils font à Paris? Nous, on soigne beaucoup mieux qu'eux.
Alors, on ne soigne pas, rappelez-vous l'accrochage que j'ai eu avec lui là-dessus.
Donc il y a deux niveaux. Le premier, c'est...
Et ces accusations.
C'est à cause de l'hydroxychloroquine que nous, on a sauvé avec l'azithromycine, on a sauvé tout le monde ou quasiment. Donc ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse qui est beaucoup plus grave, et c'est pour ça que ça a escagassé Martin Hirsch, c'est de dire, comment ça, nos réanimateurs sont moins bons que les vôtres? Et là, ils ne pouvaient pas laisser passer la chose, bien évidemment. Donc oui. Là, je pense que les choses sont... Alors, c'est un peu dommage, je veux dire, c'est un peu délirant d'avoir cette espèce de jeu permanent sur la place publique.
Oui, opposer Paris à Marseille, c'est Marseille absurde. À Paris...
Il y a d'aussi bons réanimateurs à Marseille qu'à Paris, c'est évident, évidemment, vous êtes aussi évidemment. Bien pris en...
Et ailleurs en France, d'ailleurs, il n'y a pas que Marseille et Paris.
Bien sûr. Donc, bon. Encore une fois, c'est un petit peu dommage, parce que derrière tout ça, il y a quand même l'hydroxychloroquine. Donc ça,
oui,
c'est
oui. toujours. Il veut avoir raison.
Et puis, il n'y a pas que ce sujet-là.
Alors, il n'y a pas que ce sujet-là. Il y a un autre sujet qui a fait réagir Martin Hirsch, le patient chinois. Le patient chinois, Didier Raoult, a déclaré que ce patient s'était présenté à la Pitié-Salpêtrière, hôpital parisien, puis qu'il avait été renvoyé chez lui. Faux, rétorque Martin Hirsch, le patient chinois a été hospitalisé à l'hôpital Pompidou, puis à Bichat, et n'est jamais reparti chez lui.
Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, d'ailleurs, ici, Juvin avait dit, voilà, le patient est arrivé à Pompidou. C'est vrai qu'au départ, il avait des signes un peu bizarres. On est quand même au tout début de l'épure, en février, hein, fin janvier, oui. Début février. Donc c'est vraiment le tout début. Aujourd'hui, on dit, bah, ce serait évident. Et en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, bon, on a un doute, on le garde en surveillance. Mmh. Et le lendemain, il a en effet déclenché des signes qui paraissaient plus inquiétants. Et là, on a seulement fait le diagnostic. Car en fait, Didier Raoult dit, on ne l'a pas testé parce qu'à l'époque, on ne testait pas. Il a été testé en effet le lendemain. Il s'est aggravé et il a été transféré en réanimation à Bichat ultérieurement. Oui. Donc la prise en charge pour l'époque, si on le remet en perspective de l'époque, était tout à fait cohérente. Malheureusement, c'était le premier patient décédé en France.
Décédé en France, il n'est jamais reparti chez lui.
Il n'est jamais rentré chez lui une fois qu'il est arrivé à Pompidou. Il est resté dans le circuit hospitalier.
Il est resté dans le circuit hospitalier.
Donc, c'est des petites approximations. Le problème de Didier Raoult, c'est qu'en fait, c'est un grand scientifique. Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais le problème fondamental, c'est qu'il a beaucoup d'intuition, il a beaucoup de convictions, et ça, c'est pas une démarche scientifique.
Oui. Il est prisonnier de son personnage, un peu.
Je sais pas s'il est prisonnier de son personnage.
Je ne sais pas,
il est dans sa sphère.
Voilà.
Il a une équipe qui lui est totalement dévouée. Et puis, je pense que par moment, il dépasse un tout petit peu la démarche scientifique pure.
Qu'en pensez-vous, docteur Jean-Paul Hamon, bonjour, médecin généraliste, bonjour. Président de la Fédération des médecins de France. Qu'en pensez-vous?
Écoutez, je pense que Didier Raoult a perdu une occasion de se taire. C'est vrai que c'est un peu énervant de l'entendre, de sortir de tels chiffres. C'est tout simplement ridicule. On a d'autres choses, plus sérieuses à traiter, comme les déclarations de Roselyne Bachelot hier à l'Assemblée nationale.
J'allais y venir.
Qui ose.
Oui, je vais y venir. Hier, donc, à son tour, Roselyne Bachelot était entendue à l'Assemblée nationale. Alors, on va écouter le son de Roselyne Bachelot. Le gouvernement est-il le seul responsable de la pénurie de masques qu'a connue la France durant l'épidémie de coronavirus? À cette question, évidemment, tentent de répondre les députés. Roselyne Bachelot était donc entendue. Elle a choisi de ne pas entrer dans la polémique ni de juger les choix, décisions, orientations du gouvernement
pas en place. Écoutez-la.
Le problème, c'est que nous avons une société qui, sans doute, pratique trop la gestion ascendante et descendante des crises. J'ai entendu un représentant d'un syndicat de médecins dire « Nous n'avions pas de masque dans nos cabinets, mais enfin, des médecins qui n'ont pas de masque dans leur cabinet, qui ne se constituent pas un stock. Qu'est-ce que c'est que cette médecine ? On attend que le préfet ou le directeur de l'ARS vienne avec une petite charrette porter des masques ? Mais qu'est-ce que c'est que ce pays infantilisé ? Il faut quand même un peu se prendre en main dans ce pays.
C'est vous, hein, le président de la Fédération des médecins de France, désigné par Roselyne Bachelot. Ouais. Jean-Paul Hamon.
J'ai apprécié, effectivement. Et vous savez, il y a eu une solidarité interministérielle avec Bachelot. C'est sûr qu'elle avait sans doute peur qu'on rappelle sa gestion de crise de la grippe H1N1. Où son administration, et ça je peux en témoigner, pensait que les généralistes n'avaient pas de frigo dans leur cabinet. Elle pensait que les médecins généralistes étaient trop cons pour faire 10 doses de vaccins avec un flacon de 10. Et c'est là qu'elle a lancé les fameux vaccinodromes qui ont vacciné 6 millions de personnes, quand chaque année, les médecins généralistes vaccinent 12 millions de personnes sans l'aide de qui que ce soit. Donc, si vous voulez que Roselyne Bachelot balaye devant sa porte, avant de critiquer les médecins généralistes qui travaillent dans des conditions invraisemblables, on avait des boîtes de masques. Enfin, alors là, on était arrivé sur le stock périmé, c'est vrai. Mais on avait quelques boîtes de masques, mais on n'avait pas de quoi tenir une pandémie. Et quand on a commencé à réaliser la chose, il était trop tard. On ne pouvait plus en acheter nulle part. Pire, un pharmacien de Clamart qui lui avait anticipé, il avait 4000 masques, il a reçu une injonction de l'ARS lui interdisant de vendre ces masques qui étaient réquisitionnés et qui sont restés, vous entendez, qui sont restés dans sa pharmacie avec interdiction de les vendre aux médecins qui les lui demandaient. Voilà la réalité des choses. Une administration sclérosante. Vous savez, les médecins généralistes, ils prennent leurs responsabilités tout le temps. Infantilisés, certainement pas, mais harcelés par une administration sclérosante, harcelante, et protocolisatrice. Sincèrement, ça nous a mis effectivement très en colère.
Il y a une solidarité entre ministres ou anciennes ministres de la Santé, Jean-Paul Hamon ?
Visiblement, oui. Quand Agnès Buzyn dit qu'elle a eu l'intuition que ça allait être très grave, et que le 10 janvier, elle alerte son administration, elle alerte les SAMU, elle n'alerte absolument pas les médecins libéraux, parce que les médecins libéraux, ils ont été convoqués au ministère le 18 février pour la première fois. C'est le premier courrier qu'on reçoit, et c'est la première convocation. On y va, et là, le 18 février, il est trop tard pour commander des masques, parce que déjà, la production est déjà débordée. Quand vous savez, Monsieur Bourdin, que le 3 mars, la société Marco Pharma de Tourcoing vendait encore des masques à l'étranger. Alors dire que l'administration française a anticipé la chose, franchement, c'est se moquer du monde. Le 3 mars, la société Marco Pharma vendait encore des masques à l'étranger alors que les médecins en manquaient.
Merci Jean-Paul Hamon. Alain Ducardonnet, vous voulez apporter...
Ce qu'on peut ajouter quand même, parce que là on est fait stigmatiser un peu les médecins, et en particulier les médecins généralistes, il ne faut pas oublier que Roselyne Bachelot est pharmacien, et que les pharmaciens avaient exactement le même problème, ils n'avaient pas de masque pour eux dans leurs officines. Donc ça veut dire que c'est un problème général, et c'est un problème d'approvisionnement et de renouvellement, et pas du tout le fait qu'on n'avait pas de stock chacun dans son cabinet.
Bien, merci beaucoup Jean-Paul Hamon, merci Alain Ducardonnet, merci. Il est 8h20, ça vous fait réagir, j'en suis absolument certain, 32-16, rmc.fr, Anaïs.
2019, année record en matière de recettes liées à la fraude fiscale. 12 milliards d'euros ont été récoltés. Nous serons avec Frédéric Simotel pour en parler.
RMC. RMC, 6h-9h.
Bourdin Direct.
Allez, nous sommes avec Frédéric Simotel. Frédéric, bonjour.
Bonjour, Frédéric.
Le contrôle fiscal en France bat des records. 12 milliards d'euros récoltés en 2019. 2 milliards de plus qu'en 2018. Une bonne surprise pour l'État, qui a besoin d'argent.
Oui, alors le précédent record, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou pas, enfin ça datait de 2015. Alors l'addition
Lutter contre la fraude fiscale, il faut s'en réjouir.
Oui.
Alors, donc, encore, on ne lutte pas suffisamment contre la fraude fiscale venue de l'étranger.
Justement, vous allez voir, ça commence à changer. Donc l'addition, c'est simple, c'est 11 milliards d'euros issus du contrôle fiscal assez classique. Il y a 358 millions d'euros qu'il faut rajouter. C'est ce qu'on appelle la cellule de dégrisement. C'est les gens qui se sont souvenus un peu qu'ils avaient un compte à droite, à gauche, à l'étranger notamment. Et puis 530 millions récupérés suite à des poursuites judiciaires contre Google, contre Carmignac. Donc au total, c'est 12 milliards d'euros. Et donc 2,6 milliards d'euros de plus que prévu. Alors, c'est pas qu'il y a plus de fraudeurs, mais c'est les méthodes qui ont changé. Déjà, le ministère de l'Action des Comptes Publics communique sur ce qui est vraiment recouvré. Auparavant, il disait, voilà, on va redresser de temps, mais les entreprises contestées ou les contribuables contestés, et finalement, on encaissait moins que prévu. Donc déjà, sur les chiffres, on est plus clair. Renforcement de la loi fraude 2018 et du volet pénal. Donc ça fait un peu plus peur. Donc on va cacher un peu moins d'argent. Les mesures de la loi ESSOC. Cette loi ESSOC, c'est la loi du droit à l'erreur. Vous savez, quand vous faites votre déclaration, il y a maintenant une petite application qui s'appelle OUPS. Oui, on a oublié, on avait un enfant qui a fait un stage, on a oublié de mettre sa rémunération. Mais là, ce petit OUPS, eh bien là, on a moins de contestations aussi des dossiers. Donc là aussi, ça va plus vite. Et puis, il y a un point très important, c'est ce qu'on appelle le data mining. C'est toutes ces données qu'on va croiser avec tous les organismes, de l'URSSAF. Et au final, ça a permis de récolter presque 800 millions d'euros, donc en croisant toutes ces données.
Et la fraude fiscale, de Français qui... des paradis fiscaux qui sont... Il y en a encore, ces paradis fiscaux.
Oui,
on ne lutte... Où est-ce qu'on en est de la lutte contre les paradis
fiscaux? Alors, on travaille dessus, parce que justement, on imagine qu'en 2020, avec le confinement, le télétravail, enfin tout ça, il va y avoir un peu un trou d'air dans ces recettes de contrôle fiscal. Déjà parce que on a fait moins de contrôle. Gérald Darmanin dit, bon, relâchez un peu pendant les quelques mois sur les entreprises, surtout dans des secteurs fragiles, mais il va falloir reprendre ces contrôles. Et aujourd'hui, l'échange automatique opéré dans le cadre de la levée du secret bancaire, et bien déjà c'est 84 millions de comptes bancaires qui ont été repérés en 2019. Donc ça a doublé par rapport à l'année précédente. Donc voilà, il y a des directives européennes.
C'est bien parce que
c'est ça qui est en train de se préciser.
Lutter contre l'évasion fiscale notamment. Exactement. Catherine est là. Merci Frédéric. Catherine est en Vendée. Très vite, Catherine. Bonjour.
Allô. Bonjour.
Alors, le passeport pour chien-chat, vous aimeriez qu'il soit étendu aux chevaux?
Aux chevaux, oui. Puis autres animaux, s'il y en a, mais surtout les chevaux. Parce que je viens de sauver deux chevaux qui étaient à l'origine destinés à la boucherie. Et comme les papiers n'étaient pas en règle, il n'a pas eu le droit de les vendre pour la boucherie. Donc, il voulait les abattre dans un pré et les enterrer comme ça.
Voilà, comme ça. Les abattre dans un pré et les enterrer. Voilà.
Voilà.
Hein, Catherine,
il
vous dites...
Il y en a un, il allait le laisser mourir de faim. Le cheval, quand je l'ai récupéré la semaine dernière, il avait perdu près de 200 kilos.
Catherine, vous avez raison. Étendre ce passeport aux chevaux aussi. Chien, chat, chevaux. Vous nous dites ce que vous en pensez. On en reparlera, évidemment. Merci beaucoup,
Bonne
Catherine.
Journée.
Merci vraiment à toutes celles et ceux qui sont avec nous le matin, qui appellent 3216. C'est notre lien. Vous le savez. Vous êtes avec nous. Nous sommes avec vous. C'est un bonheur de vous savoir là tous les matins. Il est 8h29. Delphine Bateau est mon invité sur RMC BFM TV dans un instant.
RMC partout. RMC tout le temps.
En podcast sur rmc.fr
et sur l'appli RMC.
Anne-Sophie Balbier est là pour les dernières informations. Anne-Sophie, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. L'épidémie de coronavirus reste sous contrôle en France. Déclaration du ministre de la Santé, Olivier Véran, ce matin. Depuis le déconfinement, plus de 200 clusters ont été identifiés, mais depuis 10 semaines consécutives, le nombre de cas se réduit. Aux États-Unis, la situation est inquiétante. En revanche, plus de 50 000 nouvelles infections en 24 heures. Dans une grande partie de la Californie, les bars, les cinémas et les musées referment leurs portes. Et puis la direction d'Airbus présente son plan de restructuration aujourd'hui. Quelles seront les entités, les secteurs d'activité les plus touchés? L'avionneur européen souhaite supprimer 5000 postes en France. Il est 8h30. Dans un instant, Delphine Bateau, ex-ministre de l'écologie et députée, est l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur RMC et BFM TV.
Notre invité ce matin, Delphine Bateau, bonjour.
Bonjour.
Ancienne ministre de l'écologie, 1 an et 11 mois, je crois, c'est cela.
1 an et 11 jours.
Un an et 11 jours. Bon, Delphine Bateau, députée des Deux-Sèvres, groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, c'est le nouveau groupe. Alors Delphine Bateau, succès des écologistes au municipal, est-ce que l'écologie politique est en route pour prendre le pouvoir en France, présider la France?
Oui. Oui, c'est indispensable parce qu'on est dans une situation d'urgence climatique, que la France va mal, qu'il y a des enjeux économiques et sociaux monstrueux et qu'une espérance est en train de se lever. On l'a vu aux élections municipales et cette victoire, elle nous oblige. Elle nous oblige à préparer les élections régionales, mais elle nous oblige à être une alternative, à être une solution pour la France. Et ça, ça passe par trois conditions, il me semble. D'abord, le fait de travailler, construire un projet qui porte des idées nouvelles et qui donc ne peut pas être une sorte de recyclage d'idées d'hier ou la bouée de sauvetage des vieux partis. La deuxième condition, c'est de construire une culture de gouvernement, une capacité à exercer les responsabilités. Et la troisième, c'est de ne pas tomber dans le piège de la personnalisation et du présidentialisme, c'est-à-dire des batailles de personnes, et de mettre d'abord en avant un collectif.
Oui, mais ça, c'est ce que j'entends depuis tant d'années, Delphine Bateau. Mmh. Hein, ne pas mettre en avant telle ou telle personne et construire un projet. Bon, très bien, construire un projet, on est bien d'accord, mais il va bien falloir mettre en avant telle ou telle personne pour porter justement ce projet, porter ce projet écologique. Vous voulez prendre le pouvoir, donc présider la France. Mmh. Vous voulez présider la France.
Oui.
Vous voulez présider la France. Bien. Pas vous ou quelqu'un d'autre, mais vous voulez présider la France. 2017, Yannick Jadot s'était rallié à Benoît Hamon. Mmh. On s'en souvient, pas de candidat écologiste. Mmh. 2022, il y aura donc un candidat qui défendra l'écologie.
Il faut qu'il y ait une candidature à l'élection présidentielle en 2022. Bon. Et je me permets d'insister parce que je vois bien ce que vous dites, c'est que effectivement la difficulté, c'est que dans les institutions de la Ve République, il faut présenter une candidature.
Mais oui.
Les valeurs de l'écologie sont antinomiques avec cette idée de l'homme ou de la femme présidentielle. Je pense d'ailleurs que les Français n'y croient plus. Je pense qu'un des problèmes de la France, c'est justement ce système dans lequel on s'en remet, on remet notre destin à une personne seule qui va prendre les décisions seule. Et donc nous, les écologistes, nous sommes en rupture avec cette culture. C'est la raison pour laquelle moi, je propose un processus collectif, un processus intelligent pour que, après cette victoire aux élections municipales, nous constituions maintenant tous les partis écologistes une fédération, que cette fédération organise une primaire ouverte à toutes nos électrices et nos électeurs qui s'inscriraient dans ce processus et que l'on vote sur un projet et sur des idées qui entraînent une candidature, mais qu'on ne se lance pas dans ce que les Français détestent. C'est les batailles de personnes, de sa voir si un tel part ici en vacances ou quel bouquin il a lu. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le programme écologiste pour la France.
Voilà, avec une primaire, donc rassemblant tous ceux qui veulent défendre l'écologie.
Oui.
Vous participerez à cette primaire ?
Je verrai. Je m'applique à moi-même, Jean-Jacques Bourdin, ce que je viens de dire. Moi,
Est-ce qu'un jour vous pourriez penser être présidente de la France ?
Je serai,
oui ou non ?
Je serai utile au collectif. Je ne sais pas à quelle place. Vraiment, ce n'est pas ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est de dire attention, danger. Attention, danger. Je vois ce qui est en train de s'installer. Le collectif d'abord. Voilà. Ne tombons pas dans ce qu'on a connu par le passé.
Mais le collectif, je vais parler de la gauche dans son ensemble. Vous êtes, c'est bien
la gauche dans son ensemble, c'est pas si simple.
Non, c'est
Bourdin.
Pas simple du
aux
tout.
Aux élections municipales.
Vous allez dire ça à Jean-Luc Mélenchon ?
Aux élections.
Vous allez lui dire ça ?
Moi, je parle de la candidature écologiste.
Ah bon ?
Sur un programme écologiste.
Donc, par exemple, Jean-Luc Mélenchon ne pourrait pas se présenter à la primaire. À cette primaire-là.
Il ne s'inscrit pas, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, dans le champ de l'écologie politique. Ce n'est pas le choix qu'il a fait, c'est respectable, mais ce n'est pas le choix qu'il a fait.
Bon, d'accord. Donc, une vaste primaire, avec, pour dégager un projet, pour dégager un candidat à la présidentielle. C'est
sur
essentiel, la présidentielle.
Sur la base projet. Oui, bien sûr, c'est essentiel.
C'est l'élection essentielle.
Oui, c'est
dans
l'élection
la 5e République.
Déterminante dans la 5e République, mais en même temps, vous le savez comme moi, Jean-Jacques Bourdin, ces institutions sont à bout de souffle. Alors, le paradoxe, c'est qu'il faut pouvoir les conquérir pour les transformer, mais un des éléments du blocage du pays qui fait que les Français ont ce sentiment que les gouvernements et les présidents passent, mais les problèmes restent et que rien ne bouge, c'est cette verticalité de la 5e République et cette idée fausse qu'une personne seule pourrait régler les problèmes de la France. C'est faux, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, regardez ce qui s'est passé dans les élections municipales. Regardez la nature du leadership des têtes de liste écologistes qui ont gagné les élections. Ils étaient à la tête d'une équipe extrêmement forte et ils ont, quelque part, c'est l'équipe qui a dit, on veut que ce soit toi. Ça s'est passé de cette façon-là à Lyon, ça s'est passé de cette façon-là à Poitiers et dans beaucoup de villes.
Bien, il y a
une candidate déjà, c'est Ségolène Royal, vous avez vu.
Écoutez, chaque fois que je viens chez vous, vous faites part de la disponibilité de Ségolène
Royal. C'est pas moi
Royal.
Qui fais part.
J'en prends note.
C'est,
voilà,
c'est elle qui, qui fait part sur tous les plateaux de sa disponibilité.
J'en prends note, ce n'est pas un élément nouveau.
C'est pas un élément nouveau. Bon, d'accord. Delphine Bateau, parlons justement de ces municipales et de ce vote écologiste. Les écolos, j'ai lu, ce sont des écolos de grandes villes riches qui ont élu ces maires écologistes, de jeunes diplômés qui mangent bio, roulent à vélo, j'entends ça. Oui.
Dans les Deux-Sèvres, d'abord moi je suis très satisfaite qu'on ait gagné des grandes villes.
Oui.
Et c'est historique. Il y a eu aussi des victoires dans des communes beaucoup plus rurales. Je vais prendre l'exemple de Saint-Mexant-l'École, qui est une ville militaire dans ma circonscription, qui est une des villes dont la population est la plus pauvre des Deux-Sèvres, qui a élu un jeune maire de 29 ans qui s'appelle Stéphane Baudry sur une liste de rassemblement autour d'un projet citoyen, d'un projet écologiste. Donc attention, effectivement le focus médiatique, si vous voulez, il est mis dans les grandes villes, mais il y a une réalité en France qui est beaucoup plus profonde.
Qui est beaucoup plus profonde. Mais est-ce que l'écologie appartient à Europe Écologie Les Verts et est-ce que l'écologie appartient à la gauche ?
Alors, Europe Écologie Les Verts, c'est la principale formation de l'écologie politique en France. Il y en a d'autres. Oui. Il y a Génération Écologie que je préside. Il y a aussi CAP 21, l'Alliance écologiste indépendante. On est aujourd'hui tout un rassemblement dans la diversité d'un certain nombre de partis écologistes. La gauche, je pense qu'on a vu ce qui s'est passé en fait aux élections municipales. C'est-à-dire que vous avez des endroits dans lesquels, par exemple, les socialistes ont décidé de soutenir les écologistes et vous avez d'autres endroits comme à Lille, à Dijon, à Poitiers, où la gauche s'est retrouvée dans le front anti-écologiste. Ou avec, à Lille, par exemple, la droite qui appelle à voter Martine Aubry pour battre les écologistes. Donc vous voyez qu'il y a une réalité contrastée.
Donc ça dépasse droite-gauche, ça
dépasse
vraiment.
Non, mais qui ne permet
vous
pas.
Vous êtes une femme de gauche, vous, Delphine Bateau.
À l'origine, oui, je viens de la gauche. Mais je considère que la cause du siècle, le combat du moment.
Dépasse tout ça.
C'est un enjeu vital, en fait. Il a fait 45 degrés en Sibérie. Il n'y a pas longtemps, il a fait 51 en Inde. Il a fait 46 l'année dernière dans l'Hérault. Donc on est aujourd'hui face à un enjeu vital qui fait que tous ceux qui ont effectivement une histoire d'engagement pour changer le monde, pour lutter contre les injustices, ben aujourd'hui ils doivent être dans ce combat-là.
Je vais vous parler d'Emmanuel Macron et de sa conversion à l'écologie. Conversion, il était peut-être écologiste avant, je ne sais pas. Mais un mot sur Édouard Philippe, dont on parle beaucoup. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'Édouard Philippe reste à Matignon ou pas ?
Moi, je ne suis pas membre de la majorité, donc ce n'est pas un débat qui me concerne.
Vous êtes citoyenne aussi. 57% des Français veulent qu'il reste.
Si votre question, c'est savoir est-ce qu'il fait le job ? La réponse est oui. Est-ce que je partage ses idées, ses orientations ? Pas du tout. Je combats sa politique, donc ce n'est pas à moi de donner un avis
là-dessus. Et celle d'Emmanuel Macron ? Est-ce que vous considérez que sa conversion à l'écologie est une conversion sincère ou est-ce une conversion électoraliste ?
En fait, ce n'est pas un débat de sincérité.
Il n'est pas sincère ?
C'est un enjeu sur les actes et sur les décisions. Il y a une des citoyennes de la Convention sur les citoyennes pour le climat qui s'appelle Yolène, je crois, ou Yolande, mais je ne me souviens plus, qui a dit « Moi, je crois que ce que je vois, je suis comme elle ». Je suis comme elle, je crois que ce que je vois. Et donc les discours, les annonces, c'est plus suffisant. Il y en a eu beaucoup des autres présidents de la République avant lui. Il y a eu des discours extrêmement brillants, extrêmement enflammés, mais les décisions ne suivent pas. Donc moi, je juge aux décisions et je suis inquiète de ce qui est en train de se passer, puisque après que lundi, Emmanuel Macron ait dit qu'il y avait 3 jokers par rapport aux propositions de la Convention citoyenne, bon, en fait, il y en avait 7, et que le lendemain, le ministre de l'économie dit ça non, ça non, ça non, ça non. Le surlendemain, la ministre de l'économie dit le moratoire sur la 5G, il n'en est pas question. Bon, on peut faire...
Je vais revenir sur la 5G, je vais revenir sur les entrepôts d'Amazon, je vais revenir... Mais je voudrais revenir sur cette convention. Il va y avoir un projet de loi.
Oui, c'est ce que nous souhaitions.
C'est ce que vous souhaitiez.
C'est ce que nous souhaitions avec tous mes collègues.
Vous pourriez voter ce projet de loi.
Ça dépend de ce qu'il y a dedans.
Ça dépend de ce qu'il y a dedans, mais vous pourriez voter.
Si les propositions sont respectées dans leur rédaction, oui, nous pourrions bien sûr le voter.
Bon, parlons des avions.
Oui.
Parce que vous faites une proposition, vous avez déposé même une proposition de loi avec François Ruffin, qui fait quand même beaucoup de bruit. L'idée, c'est de limiter l'usage de l'avion.
Oui, absolument.
C'est votre objectif. Alors, c'est une proposition de loi instaurant un quota carbone individuel.
Oui.
Explication, je prends l'avion, bon, je parcours avec cet avion un certain nombre de kilomètres. Si, quand j'arriverai au bout de mon quota de kilomètres, je ne pourrai plus prendre l'avion, c'est
absolument.
Ça ?
Absolument.
C'est ça ?
C'est ça.
Ah bon ? Expliquez-nous un peu plus en détail.
Mais en fait, on doit organiser la réduction du trafic aérien. On pourra revenir après sur la situation du secteur aéronautique. Moi, je suis solidaire de la situation des salariés. Mais on doit organiser la réduction du trafic aérien pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. On ne peut pas continuer comme ça à doubler le trafic passager dans le monde tous les 10 ans. C'est pas compatible, en fait, avec la lutte contre le changement climatique. Alors, certains disent, il faut mettre des taxes. Mais les taxes, vous avez des gens qui ont les moyens de les payer, en fait. Donc, ils continueront à prendre énormément l'avion. Tandis que d'autres n'ont pas les moyens. Donc, l'idée que l'on défend, c'est de mettre en place un système de quota carbone où chaque année, toutes les personnes à égalité ont le même quota carbone qu'on puisse cumuler dans le temps pour pouvoir faire un voyage de temps en temps. Je précise qu'on parle des voyages de loisirs. Il faudra se pencher plus tard sur la question des voyages professionnels.
Que,
évidemment, on exclut tout ce qui est lié à la continuité territoriale de la République, avec la Corse, avec les Outre-mer, qu'on exclut tout ce qui est lié à des besoins familiaux, par exemple le fait de devoir aller voir un proche qui habite à l'étranger ou de se rendre à des obsèques de sa famille, etc. Donc tout ça n'est pas considéré par la proposition. On parle de l'usage de l'avion, j'allais dire, de confort, de loisirs.
Un cousin en Thaïlande ou je ne sais pas moi.
Non, je ne crois pas. Regardez,
un ami à l'autre bout du monde.
Pas. Regardez ce qu'a été le civisme des Français pendant le confinement. C'est pas un modèle, le
vous
confinement.
Voulez empêcher les Français.
Jean-Jacques Bourdin, le confinement, c'est pas un modèle.
Non, on a dit,
il y a un besoin sanitaire et donc il faut respecter des règles. Et dans l'ensemble, elles ont été extrêmement respectées et même de façon exemplaire. Et chacun a rempli sa petite attestation, etc. Donc, ne sous-estimons pas, en fait, la capacité des citoyens à comprendre un dispositif et à partir du moment où il est juste socialement.
Vous allez empêcher des citoyens de partir en vacances chaque année en avion.
Ben, ceux qui prennent 10 fois l'avion par an pour aller en week-end, je ne sais où, etc. Oui, dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est plus possible.
Vous limitez le déplacement des personnes.
J'invite à la relocalisation du tourisme. J'invite à découvrir nos fabuleux terroirs.
Oui.
Effectivement, le tourisme de masse tel qu'on l'a conçu, il n'est pas compatible avec le respect.
Mais Jean-Baptiste Djebari était là hier, il me disait, moi je ne veux pas de billets d'avion à 10 euros. Vous êtes d'accord avec lui ou pas ?
Oui, ça là-dessus, il y a les compagnies low cost, de toute façon c'est un problème. C'est un problème et c'est d'ailleurs destructeur pour le secteur industriel. Le fait de considérer que ça n'a aucune conséquence, que ça ne vaut rien un billet d'avion, je suis pas pour. Non, je préfère un autre système qui est celui des quotas carbone.
Et les vols intérieurs remplacés par le train quand c'est possible, ça on est d'accord. Vous aviez initié cela
il y a un an.
Et le gouvernement,
on nous avait traité de fous. Hein. C'est-à-dire, quand on a proposé, il y a un an, la suppression des liaisons aériennes inutiles, là où il y a le TGV, vous avez dit, mais vous n'y pensez pas, etc., force est de constater.
En attendant, l'aéronautique souffre.
C'est une catastrophe.
7560 suppressions de postes à Air France, 5000 à Airbus. Ouais. Dites-moi, avec votre mesure, c'est pas 5000 Airbus, mais Airbus ne vendra plus d'avions, alors.
Pardon, mais je ne peux pas laisser dire ça.
Alors allez-y, Delphine.
Parce que
dites-moi
la situation du secteur aérien n'est pas liée à des décisions de transformation écologique. Elle est liée à la négation des problèmes écologiques. Elle est liée au fait qu'en fait, il y a une espèce de bulle qui s'est constituée autour de ce secteur. Et cette bulle, elle est basée sur quoi ? Elle est basée sur le mythe de la prochaine multiplication par deux du trafic passager dans le monde. Et donc, face au coronavirus, cette bulle, elle s'effondre. Et donc, c'est exactement, en fait, l'inverse de ce que nous voulons faire. Parce que nous, ce que nous voulons faire, c'est organiser et planifier la diversification des activités de cette industrie où il y a beaucoup de qualifications, où il y a du haut niveau en termes de R&D, du très haut niveau chez les techniciens, chez les ouvriers. Et en fait, tous ces savoir-faire, on doit aujourd'hui organiser leur diversification vers d'autres activités industrielles, en partie, tout en gardant des compétences, évidemment, dans l'aéronautique.
Le disent Delphine Bateau, le problème des Verts, c'est leur crédibilité économique.
Il faut la construire.
Il faut que vous la construisiez,
je ne crois pas qu'on puisse nous donner des leçons de crédibilité économique quand, par exemple, sur l'aéronautique, il n'y a pas d'État stratège. que l'État a entretenu le secteur dans cette vision sans limite de la croissance infinie du secteur aérien. Donc nous n'avons pas de leçon de crédibilité économique à recevoir sur ce sujet.
Alors parlons d'économie, parlons d'énergie, parlons du nucléaire. Est-ce que l'énergie nucléaire est une énergie écologique ?
Non.
Non.
Non, parce qu'elle produit des déchets.
Oui, d'accord,
qui ont une durée de vie quasi illimitée.
Elle préserve l'air que nous respirons.
Elle n'émet pas de CO2 dans la production d'énergie. Oui. Nous avons aujourd'hui en France une trop grande dépendance à l'égard du nucléaire, mais il n'est pas question de sortir du nucléaire demain matin. Il faut organiser progressivement dans le temps la diminution de la part du nucléaire pour des raisons, Jean-Jacques Bourdin.
Diminution ou suppression carrément du nucléaire à terme,
je suis pour la sortie du nucléaire, bien sûr.
Sortie du nucléaire.
Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible.
Non.
Donc on doit diminuer progressivement la part du nucléaire pour une raison très simple, c'est qu'on est trop dépendant de cette énergie. Que toutes les centrales nucléaires ont été construites en même temps. Et donc quand on a un pépin sur une, on a un pépin sur toutes. Ça s'est un peu produit d'ailleurs en 2019 où on a eu ce type de difficultés. Donc c'est ce qu'on doit organiser aujourd'hui, en fait, c'est la résilience de la nature.
Je dis ça parce que beaucoup d'écologistes défendent maintenant le nucléaire.
On doit organiser aujourd'hui la résilience de la nation, sa capacité à faire face à des gros pépins.
Oui.
Et donc mettre toute notre dépendance énergétique dans le nucléaire, c'est pas résilient, Jean-Jacques Bourdin. C'est pas un choix qui est responsable à la nécessité de garantir la sécurité de nos infrastructures.
Il y a des écologistes qui défendent le nucléaire et vous en connaissez.
Bien sûr, ça fait l'objet d'un vrai débat, même chez vous, parmi les écologistes. Bien entendu.
Est-ce que vous reprochez à l'État d'employer tous les moyens pour relancer la croissance ? Quoi qu'il en coûte, le fameux quoi qu'il en coûte.
Mais en fait, la croissance, c'est pas un objectif en soi.
Ah bon ? Et c'est la décroissance l'objectif ?
Non, ce qui est un objectif en soi, c'est le bien-être, c'est le travail, c'est de créer des emplois, c'est de lutter contre le chômage, c'est de vivre en harmonie avec la nature, d'arrêter de la détruire.
La croissance permet de lutter contre le chômage, non ?
Non, la croissance, Jean-Jacques Bourdin, en fait, le problème, c'est qu'elle est liée au pétrole. C'est-à-dire, vous prenez la consommation de pétrole et vous prenez l'augmentation du PIB, puisque c'est ça la croissance, et bien les deux sont totalement corrélés. Et donc en fait, si l'idée c'est de dire, faut remettre de l'argent dans le système qui est destructeur, faut réaugmenter notre dépendance aux énergies fossiles, c'est pas un choix qui est responsable par rapport à ce qu'est maintenant, et permettez-moi d'insister là-dessus, un enjeu de sécurité nationale.
Donc moins de croissance, moins consommer.
Les canicules, consommer moins.
Oui, consommer moins.
Consommer mieux. Consommer local.
Acheter moins de vêtements, acheter moins de shampoings, acheter je ne sais pas moi.
Acheter du Made in France.
Oui.
Acheter sa nourriture faite en France par des producteurs locaux. Relocaliser.
Il faut relocaliser
notre économie.
Oui.
Le consumérisme.
Mais c'est facile à dire quand on a un emploi.
Non.
Moi j'entends ça, l'extrême droite vous répond. Je ne sais pas si Jordan Bardella disait quand la mondialisation ne vous touche pas, quand vous avez un emploi, quand vous n'avez pas de problème de sécurité pour vos enfants, alors vous pouvez vous soucier de la fin du monde, de la fin de la planète.
Alors d'abord, ça, c'est un argument. C'est une vision qui porte un niveau de mépris social qui est assez sidérant. Comme si les habitants des quartiers populaires, nos aînés qui vivent dans les territoires ruraux, n'avaient pas de préoccupation en fait pour le climat, pour les oiseaux qui disparaissent, pour les insectes qui disparaissent, pour l'Amazonie qui brûle. Je trouve ça scandaleux en fait comme déclaration. Ensuite, le consumérisme, Jean-Jacques Bourdin, aujourd'hui il pourrit quand même un peu la vie des gens. Je vais prendre un exemple, le démarchage téléphonique. Le démarchage téléphonique, en fait, que nous proposons avec le groupe EDS d'interdire, le démarchage téléphonique, il fait de nous des consommateurs 24 heures sur 24, même quand on est à la maison. Et des fois, le téléphone sonne même la nuit. Et là, il y a une proposition de loi qui sera votée à l'Assemblée nationale le 15 juillet, qui tergiverse, qui ne veut pas interdire, parce que vous comprenez, il y a les activités des centres d'appel, etc. Donc non, à un moment donné, il y a des principes qui sont des principes de droit de chaque citoyen.
À un moment donné, il y a des décisions à prendre.
À être tranquille chez lui.
À un moment donné, il y a des décisions à prendre pour...
Il y a des arbitrages.
Le pouvoir, des arbitrages à faire.
Il y a des arbitrages à faire, oui.
Pour arriver au pouvoir.
Et par exemple, le démarchage téléphonique, c'est non.
Merci Delphine Bateau d'être venue nous voir. 8h54, vous êtes sur RMC et BFM TV.